Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. C'est toujours une joie d'être parmi les frères et sœurs, un petit peu partout dans Bordeaux. Et je vous souhaite à tous une excellente année dans le Seigneur, une bonne persévérance dans le Seigneur, qui puisse continuer de nous accorder sa grâce, son amour, tout au long de cette année, qu'il nous communique sa joie, nous le savons. Hein. Toute cette joie, elle nous vient du Seigneur et non pas des événements qui jalonnent nos vies. Et vraiment qu'il continue de nous bénir richement. Eh bien, Lydie et moi-même, nous rentrons bientôt en Martinique, d'ici le 30 janvier, la fin du mois. Nous rentrons en Martinique dans l'église d'où je viens, où je vais commencer le ministère pastoral à temps plein dans mon église. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, les prières, mais également votre soutien financier. Et vraiment merci pour tout ce que vous êtes. Vraiment, vous nous manquerez et ce sera aussi dur pour vous, mais aussi dur pour nous. Et je pense pas que ce soit la dernière fois que je prêche ici. Je reviendrai probablement durant des vacances et j'espère bien vous revoir. Ce matin, je vais prêcher dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je vous invite à le prendre. Toute cette année où j'ai pu prêcher à l'église de Floirac, nous avons prêché dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens. Et puis nous avons touché également ce sujet qui est du mariage, du divorce et également du remariage qui est dans ce chapitre. Florent a pris la première partie du passage, des versets 1 à 7, et j'ai poursuivi les versets 8 à 16. Et c'est sur cette portion que je prêcherai. Mais toutefois, je vous invite à... On va relire tout le passage du chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 16. Chapitre 7, verset 1 à 16. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit... Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant, se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Prions. Vraiment, Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de toi encore ce matin. Vraiment que ton Saint-Esprit nous enseigne. Et je te demande de permettre que chacun soit disposé et disponible à ta parole encore ce matin. Viens à mon secours, Père Céleste, pour que je puisse annoncer ta parole sans à rougir encore ce matin et que je l'expose droitement, Père. Vraiment, viens à notre aide et fais-nous du bien encore ce matin. Tu sais combien nous avons à apprendre sur ce sujet qui est délicat. Et enseigne-nous, apprends-nous. Nous sommes là, nous avons faim et nous avons soif de ta parole encore ce matin. Bénis-nous encore, au nom de Jésus. Amen. Vraiment, comme je l'ai dit, on se concentre sur les versets 8 à 16 de ce passage. Et les versets 8 à 16, en quelque sorte, ils nous enseignent sur quoi ? Sur le mariage, sur le divorce et sur le remariage. Et le mariage, je dirais, voilà une chose qui n'a vraiment plus la valeur que Dieu lui donne dans sa parole. Et pour dresser ce constat, on n'a pas besoin d'être un grand analyste. Il suffit de regarder autour de nous, mes chers frères et sœurs. Vous savez qu'en France, les statistiques disent que plus de 45% des mariages terminent en divorce. Chaque année, il y a plus de 130 000 personnes qui divorcent. Et cela, vous me direz que ce sont que les gens du monde. Eh bien, je vous dirais non. Parfois, dans les églises, il y a aussi des chrétiens qui divorcent. Chacun a ses raisons. Parfois, elles sont légitimes. Et des fois, elles ne le sont pas. Mais je dirais que la pensée de Dieu pour le mariage, il est fortement déconseillé. Même c'est un ordre de ne pas divorcer. Mais rien n'est étonnant, vous savez, mes chers frères et sœurs, ce conseil est alarmant à cause de quoi ? À cause de la dureté du cœur de l'homme, à cause de la dureté de nos cœurs, mes chers frères et sœurs, qu'il y a autant de divorces dans ce monde. Les Corinthiens n'ont pas échappé à ce problème. Les divorces, ça n'existe pas que d'aujourd'hui, ça existait depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, nous ne faisons que reproduire ce qui s'est fait par le passé. Et les Corinthiens, ils avaient besoin d'être éclairés là-dessus. Ils avaient demandé à Paul, justement, ils avaient écrit à Paul pour lui poser ces questions sur le divorce, sur le mariage et le remariage. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et Paul leur a écrit pour cela. Une chose qui est très importante à se dire également, c'est que pour le divorce, pour le remariage et pour le mariage, mes chers frères et sœurs, nous devons y aller au cas par cas. On n'a pas le droit d'imposer une règle générale à tout le monde. Et une chose qui me fait dire ça tout d'abord, c'est la structure du message de Paul. Parce que Paul ici, il parle de trois catégories, il s'adresse à trois catégories de personnes. Il s'adresse premièrement à des chrétiens qui avaient déjà été mariés. Il s'adresse aussi à des chrétiens qui sont mariés à d'autres chrétiens. Et il s'adresse également à des chrétiens qui sont mariés avec des non-croyants, un mariage mixte. Et on va voir cette première directive, ce que Paul dit aux personnes qui avaient déjà été mariées. Et c'est là la première directive. Quand on lit le verset 8, on a l'impression que Paul parle ici à des personnes qui sont célibataires et à des veufs. Mais en réalité, mes chers frères et sœurs, Paul parle ici à des personnes qui ont été divorcées avant leur conversion. Et il parle également à des veufs. Vous savez, quand Jésus-Christ vient, quand il nous prend dans l'état où nous sommes. Et certaines personnes, quand ils viennent à Christ, ils avaient déjà eu un foyer. Ils avaient déjà été mariés une première fois. Et ils avaient également été déjà divorcés. Une chose qui me permet de dire ça, c'est que au verset 8, il y a un petit mot, ceux qui ne sont pas mariés, le mot grec agamos, qui revient que 4 fois dans le Nouveau Testament, et il revient dans cette épître uniquement, et dans ce chapitre uniquement. Et c'est ce mot qui nous permet de dire qu'il s'adresse ici à des personnes qui avaient déjà été divorcées avant leur conversion. Par exemple, il revient également au verset 11, là où nous pouvons lire, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Et ici, le mot sans, qu'elle demeure sans se marier, c'est qu'elle demeure également agamos. Donc le contexte nous montre ici que Paul s'adresse à des personnes qui étaient divorcées avant leur conversion. Et voilà la première chose qui nous permet de dire qu'on ne peut pas imposer une règle générale à tous les cas qui se présentent devant nous. Il y avait une problématique au sujet du mariage à Corinthe. Vous savez, les célibataires, ils pensaient qu'ils étaient beaucoup plus spirituels que les personnes qui étaient mariées. Et de ce fait, ils pensaient que leur célibat les avait élevés très haut et très loin. Et dans l'église, il y avait pas mal de prises de parti. Et imaginez-vous des personnes qui avaient déjà été divorcées avant leur conversion, comment on devait les voir dans cette église. Mais mes chers frères et sœurs, cette chose n'est pas... Ce n'est pas uniquement à Corinthe que l'on voit ces choses. Parfois dans l'église, on voit des personnes qui viennent et qui sont venues, qui ont eu un divorce avant leur conversion. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens, mes chers frères et sœurs? Paul ne leur donne que deux options. Ils ne sont pas obligés de se remarier, mais ils ne sont pas obligés de rester seuls. Et je pense que voilà un passage qui est là pour encourager tant de chrétiens, tant de personnes qui sont dans ce cas, des personnes qui ont eu un divorce avant leur conversion et qui sont venues à Christ comme cela. Parce qu'aujourd'hui, tant de personnes peuvent tomber dans des églises qui n'ont pas pris le temps d'examiner le cas de ces personnes et qui leur ont dit « Non, vous n'avez pas le droit de vous remarier ». Et ce n'est pas ce que l'apôtre dit ici. L'apôtre leur dit qu'ils ont le droit de se remarier et qu'ils ont le droit de ne pas le faire aussi. Une chose qui est bien avec Paul, c'est que quand il nous donne un principe, il nous donne aussi, il nous dit pourquoi, comment, enfin il nous dit plutôt comment on doit l'appliquer. Ah ben, ces personnes qui se retrouvaient dans ce cas précis, c'est-à-dire soit les veufs, soit les personnes qui étaient divorcées avant leur mariage, il leur dit comment ils doivent faire pour savoir s'ils doivent se marier. Et la réponse est là au verset 9, il leur dit... Le seul motif qui devrait leur pousser à se marier, c'est s'ils manquent de maîtrise, eh bien, il vaut mieux se marier. Voilà. C'est une réalité, mes chers frères et sœurs. Tout le monde n'a pas reçu ce don qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Le don du célibat, ce n'est pas une chose que Dieu donne à tout le monde. C'est comme tous les autres dons. Dieu dispense ses dons comme il veut, à qui il veut. Et c'est de même pour le don du célibat. Et puis, vous le savez bien, il y a veuf et veuf. Il y a divorcé et divorcé. On peut être veuf ou veuve à 20 ans. On peut être veuf ou veuve à 60 ans. Et bien sûr, on peut, à 20 ans, je pense qu'on manque beaucoup plus de maîtrise. Surtout si on a déjà une vie sexuelle, excusez-moi le terme. Mais je suis bien obligé de parler ainsi ce matin. Il est plus difficile d'avoir de la continence quand on a déjà eu des rapports sexuels, bien sûr. Je ne vise personne dans l'église ce matin, mais je voudrais encourager particulièrement tous ceux qui sont seuls et qui attendent vraiment que le Seigneur agisse, qu'il leur trouve un mari. Vous savez, il n'y a pas d'autre chose à faire que d'attendre et de demander au Seigneur vraiment de prier, de lui demander de préparer notre cœur. Si le Seigneur ne vous a pas encore donné de femme, ou si le Seigneur ne vous a pas encore donné d'époux, c'est parce qu'il veut que vous patientiez et que vous soyez prêts. Et qu'à ce moment précis, quand vous connaîtrez la personne qu'il mettra devant vous, eh bien vous serez prêts. Vous serez prêts à le recevoir. Vous savez, c'est un petit peu comme Isaac. Hein? On a Isaac dans la Bible. Il n'a pas sélectionné sa propre femme. C'est le serviteur de son père qui est parti et qui allait chercher une épouse pour lui, bien sûr. Mais quand il a vu, la Bible nous dit qu'il l'aima et qu'il a été consolé de la mort de sa mère. Il s'est marié tard, mais Dieu avait préparé son cœur afin qu'il puisse recevoir également cette femme. Nous avons vu les directives sur le mariage aux personnes qui avaient déjà été mariées. Voyons maintenant les directives que Paul donne aux chrétiens, à ceux qui sont mariés avec d'autres chrétiens. Et ici, on peut lire des versets 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà une vérité qui ne fait pas sensation. ni dans la société parfois, ni dans l'église, mes chers frères et sœurs. Vous le savez, dans certaines églises, il y a des chrétiens qui arrivent, ils arrivent à divorcer. Ça arrive. Et vraiment, je me suis formé pour le ministère et j'espère que jamais dans ma vie, que je ne dirai à quelqu'un, que je ne conseillerai à un couple de divorcer, que je les mènerai sur cette voie, parce que ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Vous savez, il n'en était pas ainsi au commencement, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous laisse. En s'appuyant sur Genèse 2, 24, il est écrit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme qu'il se marie, ou la femme qui se marie, eh bien, il devrait s'attacher à la personne qu'il rencontre pour former cette chair unique, pour former cette entité unique. Alors, à quoi bon vouloir séparer ce que Dieu a joint? Le divorce, c'est un mot qui doit être proscrit. On doit l'enlever de notre vocabulaire. On ne doit même pas y songer quand on est marié, mes chers frères et sœurs. Le mariage, c'est du sérieux. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Et c'est bien pour cela que nous, chrétiens, nous devons nous marier avec d'autres chrétiens. Déjà, c'est difficile entre chrétiens. Imaginez qu'est-ce que ça doit être avec un non-chrétien. Et puis le mariage, vous le savez, c'est un engagement qui nous lie à vie. Romains chapitre 7, verset 2, dit « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Je le répète, excusez-moi, je le répète pour vous, mais je le répète également pour moi, le mariage c'est du sérieux. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Parce que, en plus de passer à la mairie comme tous les gens du monde, nous prenons notre engagement dans le Seigneur. C'est en quelque sorte une alliance que nous... C'est une alliance que nous faisons devant le Seigneur. Excusez-moi de compliquer la chose, mais quand on parle de mariage, on ne peut pas rester... Quand on parle de divorce également, on ne peut pas rester sur ces simples passages. Il y en a d'autres encore à voir. Et j'estime qu'il est important de voir ce que le Seigneur nous a enseigné là-dessus, sur le mariage et sur le divorce. Qu'est-ce que lui-même il a dit? Et pour cela, je vous invite à analyser un petit passage dans Matthieu 19, l'évangile de Matthieu. Matthieu 19, et nous lirons les versets 1 à 9. Matthieu 19, versets 1 à 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le sujet du divorce, du remariage et du mariage, c'est un sujet qui est ancré dans toute la Bible et le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé également son avis. Son avis qui ne diffère pas du tout de celui de Paul. La Bible est un tout qui prend forme ensemble. Vous le savez, ce passage parle des pharisiens qui viennent voir Jésus et qui veulent le tester, qui veulent le mettre à l'épreuve. Et il lui demande son avis sur la possibilité de divorcer. Et vraiment, il en donne une. Certains doivent se dire qu'Olivier est en train de partir en live, il est en train de se contredire. Mais la parole de Dieu nous donne une clause de possibilité au divorce. Mais je précise que cela ne veut pas dire que l'on doit s'engouffrer dans cette clause. Il y a une clause, la clause elle est là à cause de quoi? À cause de la dureté de nos cœurs, encore une fois. Jésus donne un seul motif valable. Et ce seul motif, c'est l'inconduite sexuelle, c'est la débauche. C'est pour cause de débauche. On lit pour cause d'adultère. Et le mot adultère, vous savez, dans la Bible, c'est le mot moikea dans le grec. Mais ici, dans ce passage, ce n'est pas le mot moikea qui vient, c'est le mot pornéa. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est juste pour cause d'inconduite sexuelle, sauf pour une cause de débauche. C'est-à-dire que si j'ai un mari qui a un mode de vie qui est inflexible, si j'ai une femme qui a un mode de vie qui est inflexible, elle me trompe, elle ne se détourne pas de sa mauvaise voie, elle ne demande pas pardon et elle continue dans cette voie, et bien là la clause elle est atteinte. Et le conjoint a le droit, il a le droit de divorcer, il a le droit de demander le divorce. Mais toutefois j'estime que ce n'est pas parce qu'il y a une clause, je l'ai déjà dit mais je le répète, la clause est atteinte, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'engouffrer dedans c'est pas parce qu'on a un droit qu'on doit le faire valoir. Je pense que le plus souvent, ce que le Seigneur nous demande plutôt, c'est d'apprendre à nous dépouiller de nos droits. Parce qu'avant toute chose, ce n'était pas la pensée de Dieu pour le couple. Vraiment, je voudrais encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes en ce matin qui passent des moments difficiles dans leur mariage. Peut-être que c'est difficile pour toi. Mais je veux te dire de t'appuyer sur le Seigneur. On l'a entendu ce matin, c'est lui notre rocher. C'est lui notre forteresse, c'est lui ta masada, c'est lui qui te protège. Et vous savez, Dieu reste Dieu, il est le Dieu des miracles. Le Dieu qui a fait des miracles dans l'Ancien Testament et également qui a fait des miracles dans le Nouveau Testament. Et le Dieu des miracles qui veut faire des miracles dans ta vie. Même quand tout va mal, vous savez, Dieu, il a changé dans beaucoup d'histoires. On peut le voir dans la Bible. Il a changé le bien. Il a changé le mal en bien, excusez-moi. Rappelons-nous de l'histoire de Joseph, mes chers frères et sœurs. Le mal que ses frères lui avaient fait, il l'a changé en bien. Et ça peut également être une réalité dans ta vie. Ce n'est pas un absolu, bien sûr, mais cela peut être une réalité dans ta vie. Et puis, bien sûr, je voudrais encourager tous ceux qui sont déjà mariés dans le Seigneur à persévérer dans votre mariage. Bien sûr, j'ai donné beaucoup de directives, j'ai donné des positions, des choses qui sont tranchées. Et j'ai oublié de dire combien le mariage, c'est une belle chose, n'est-ce pas ? Je repose ma question parce que je n'ai pas entendu de réponse. J'ai l'impression que le mariage n'est pas une chose qui est belle, donc je repose la question. Est-ce que le mariage est une belle chose? Amen. Ah oui, le mariage c'est une belle chose, c'est beau. Même Salomon a su dire, j'aime bien prendre l'exemple de Salomon, l'homme aux 1000 femmes. 700 femmes et 300 concubines, je crois, si c'est bien ça. Il a dit 2 valent mieux qu'un. Il n'a pas dit 1000 valent mieux qu'un, mais il a dit 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. De même, si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Et vraiment, c'est cette tête qu'on peut expérimenter à travers son conjoint dans le Seigneur. Voilà la beauté de la chose qu'il y a dans le mariage. Tim Keller a dit une chose dans son livre. Son livre dont j'ai plus le nom, mais c'est sur le mariage. Il a dit que le mariage est fait de victoires écrasantes et de défaites humiliantes. Et c'est une réalité, le mariage c'est usant, mais c'est beau. C'est usant, mais c'est beau. Et on n'a pas besoin d'avoir 10, 30, 40 ans, même 50 ans d'expérience dans le mariage pour le dire. C'est usant, mais c'est beau. Parce que, vous savez, étant marié aujourd'hui, presque 2 ans, je me rends compte d'une chose dans le mariage, c'est que on a la chance de pouvoir être un outil de bénédiction, un outil de sanctification dans notre foyer. Parce que notre femme, parce que notre mari, c'est celui qui peut nous rappeler aussi que, eh ben, t'es pas si bien que ça. Il y a des choses à changer ici, là. Mais ça, c'est bien. Parce que ça nous aide à nous sanctifier dans le Seigneur et à grandir dans les domaines où nous avons des faiblesses. C'est utile pour grandir. Et si vous pensez savoir aimer avant de vous être marié, croyez-moi, c'est faux. Parce que l'amour, c'est pas uniquement le sentiment qui nous fait perdre la tête. C'est pas le cœur qui bat à 200 km/h. L'amour, c'est bien plus que ça, c'est le mot de l'action. L'amour, c'est le mot de l'action. On ne peut pas dire à son mari, je t'aime. On ne peut pas dire à sa femme, je t'aime, s'il n'y a pas les actes qui vont avec. Nous sommes dans une société qui dit que le mariage est impossible. Mais mes chers frères, dans le Seigneur, c'est possible. En Jésus-Christ, c'est possible. Et nous pouvons faire la différence parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire la différence dans ce monde qui est en train de se perdre. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à investir pour notre mariage? Quels sont les efforts que nous pouvons faire pour que nos mariages soient de plus en plus beaux? Je ne prétendrai pas donner des leçons. Je n'ai que presque 2 ans de mariage. Mais il y a un frère qui m'a dit quelque chose quand je me suis marié. Il m'a dit, tu sais Olivier, le mariage c'est comme un jardin. Le jardin, il faut y aller souvent. Il faut aller faire les mauvaises herbes, il faut l'arroser. Eh ben, c'est une très belle illustration pour ce que nous devons faire dans nos couples. Dans nos couples. Je sais que les femmes, elles aiment les jolies fleurs et peut-être les beaux légumes. Ben, si vous aimez les jolies fleurs et si vous aimez aussi les beaux légumes, ben, vous savez ce que vous devez faire. Parfois, il faut cercler l'arbre, il faut retourner la terre, il faut mettre de l'engrais, il faut l'arroser, il faut arracher les mauvaises herbes, ça demande des efforts et ça fait suer. Et vous, les hommes, je sais que les hommes, ils aiment bien les gazons, vous savez, bien taillés, bien délimités. Mais ça aussi, ça demande des efforts. Il faut passer la tondeuse. Il faut veiller à ce que l'herbe ne pousse pas trop haut. Tout ça, ça demande des efforts. Mais des efforts que nous pouvons faire dans le Seigneur, parce qu'il nous a donné son esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mes chers frères et sœurs. C'est la joie, c'est la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des choses que nous avons déjà en nous. C'est un package, le package que Dieu nous donne à notre conversion. Et tout cela, c'est utile également pour nos couples. C'est utile pour nos couples. Et puis, il y a tant de principes bibliques. Tant de principes bibliques pour nous envoyer au large. Il y en a un que je mets en pratique, que nous mettions en pratique dans notre couple, Lydie et moi. C'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4, au verset 26 et 27, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » C'est un principe biblique pour la communion fraternelle dans l'Église. Mais appliquez-le à votre foyer. C'est un défi pour moi, je l'avoue, c'est un défi pour moi. Parce que si il est inévitable qu'on se mette en colère, qu'on se fâche, il est difficile de régler les choses le même jour. Et Lydie et moi, nous veillons à ce que voilà, toutes les choses soient réglées le même jour. Ne laissons pas courir les choses, mes chers frères et sœurs. Les choses ne se règlent pas quand on les laisse courir. Il faut prendre son courage à deux mains et il faut les régler le jour même. Voilà, je vous encourage à persévérer dans ces belles histoires, dans cette belle histoire que nous formons tous dans notre couple, dans nos couples. On a vu les directives qui s'adressaient aux chrétiens qui sont mariés à d'autres chrétiens. Voyons maintenant cette dernière directive que Paul donne à des chrétiens qui sont mariés avec des non-croyants. On peut lire au verset 12 à 16 aux autres. Ce n'est pas le Seigneur. En Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? La formule est bonne, je la répète. Christ nous prend dans l'état où nous sommes. Et quand il est venu chercher certains, ils étaient mariés déjà avec des non-chrétiens. Je dis bien, ils étaient déjà mariés avec des non-chrétiens au moment de leur conversion. Et ces personnes voulaient savoir, ben, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Est-ce qu'ils devaient se séparer de leur mari? Ou est-ce qu'ils devaient continuer avec leur mari? Ou est-ce qu'ils devaient continuer avec leur femme? Bien sûr. Je vais préciser une petite chose aussi pour une petite ambiguïté. Hein. Vous savez, en théologie, parfois, on spécule beaucoup. Et c'est écrit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Et bien souvent, des gens arrivent à se dire, Paul parle, mais c'est pas inspiré de Dieu. Bien sûr que non, tout est inspiré de Dieu. Ici, ce que Paul veut dire, c'est que c'est plutôt quelque chose comme, le Seigneur ne nous a pas enseigné là-dessus, mais moi, je vous dis. Et il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas enseigné directement, il n'a pas enseigné directement sur ce cas où l'on retrouve un chrétien et un non-croyant marié. Et Paul leur dit tout simplement de ne pas divorcer. Il leur dit de ne pas divorcer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir de sanctifier leur foyer. Ils ont ce pouvoir de sanctifier leur foyer, même en étant sous un joug étranger. Et ça, c'est formidable en Christ. Le terme sanctifié, bien sûr, il ne fait pas allusion au salut de la personne. Sinon, il n'aurait pas dû, qui sait si tu sauveras ton mari ou si tu sauveras ta femme. Mais ce qu'il veut dire par sanctifier, c'est plutôt parler de l'influence que l'on peut avoir dans notre foyer. Vous savez, quand on est dans un couple mixte, il peut y avoir un parent qui peut avoir une mauvaise influence dans le foyer, le non-chrétien bien sûr, et puis il y a le parent qui peut avoir une bonne influence, c'est le chrétien. Et le chrétien, il peut avoir ce rayonnement dans sa famille et, je dirais, sanctifier son foyer par sa présence. Je ne sais pas si ici il y a des personnes qui sont dans ce cas précis, mais le Seigneur veut vous encourager aussi en ce matin. Il faut se mettre face à la réalité, c'est difficile. Quand on est dans un foyer mixte, c'est difficile. Déjà que c'est difficile en étant avec deux chrétiens, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est avec un chrétien et un non-chrétien? Mais le Seigneur vous montre ici qu'il y a une bénédiction à prendre, qu'il y a une promesse à s'accaparer ici. Encore pour un croyant qui est marié avec un non-croyant. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être victorieux dans votre foyer. Et même si à côté vous avez un non-croyant, Dieu vous a donné tout ce qu'il faut. Et vous n'avez qu'à vous appuyons-nous sur notre Seigneur, mes chers frères et sœurs. On l'a entendu ce matin, qu'il est notre refuge, qu'il est notre forteresse. Et il est ce grand Dieu qui nous aime et qu'il veut que nous soyons bénis. Je parlerai également de cette clause, parce qu'il y a aussi une clause là qui permet de dissoudre le mariage dans ce passage. Mais le divorce ne doit pas être à l'initiative du croyant. C'est le non-croyant qui doit demander le divorce. Le passage nous dit clairement que si le non-croyant se sépare au verset 15, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Bien sûr, ce n'est pas au chrétien parce qu'il en a marre, parce qu'il en a assez, qu'il doit abandonner tout simplement. Ce n'est pas parce que le chrétien n'a plus envie d'être une bénédiction dans son foyer qu'il doit s'arrêter. Au contraire, je crois que le chrétien, il doit mobiliser tous ses efforts pour pouvoir sauver son couple. Dans la mesure du possible, bien sûr. Parce que le Seigneur nous montre ici que parfois, dans certains cas, c'est le chrétien, c'est le non-croyant qui veut partir et vraiment, on ne peut rien faire pour sauver ce couple. On n'a pas d'autre chose qu'à faire qu'à se séparer. Et ce n'est pas... Vous n'êtes pas des échecs si vous êtes dans ce cas. Surtout pas, vous n'êtes pas des échecs. Je ne sais pas s'il y a des gens ce matin qui sont dans ce cas, mais le Seigneur vous le dit en ce matin, vous n'êtes pas des échecs. Soyez encouragés. Et puis bien sûr, il y a certaines personnes qui se sont mariées également avec des chrétiens, avec des non-croyants, excusez-moi, et qu'ils étaient déjà convertis. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Ah ben, je pense que nous devons les encourager également. Parce que parfois, ces personnes se sont mariées soit par manque de connaissances, ou encore manque de soumission. Ça arrive. On ne s'est pas soumis à la vie des anciens, on ne s'est pas soumis à la vie du pasteur, et puis on s'est marié. Mais ces personnes non plus ne sont pas des échecs. Et je pense qu'une chose qu'il est important de faire si vous êtes dans ce cas précis, c'est de reconnaître votre péché, de le confesser au Seigneur, de lui demander pardon. Tout comme il le fait avec chacun d'entre nous pour nos péchés, il le fera également pour vous. Il vous pardonnera. Et vraiment, vous n'êtes pas un échec. Dites vraiment que vous êtes désolé de vous être fourré dans un pré-pétrin pareil. Mais Dieu peut faire encore un miracle dans votre foyer. Vous savez, dans la Bible, on peut voir tant de miracles qui se sont faits dans des foyers mixtes. J'ai en tête la maman de Timothée qui était juive. Et son père était grec, et Timothée était un grand serviteur devant l'Éternel. Bien sûr, ce n'est pas un absolu à prendre à calquer dans sa vie, ce n'est pas une chose qui nous arrivera à tous les coups, mais cela peut nous arriver à chacun d'entre nous. Cela peut arriver à tous ceux qui sont dans ce cas précis. Tu peux être un instrument de conversion dans ton foyer, et même sans parole, comme l'a dit Pierre. Il suffit d'être un bon témoignage, de montrer que le Seigneur est en train de transformer ma vie. Et on pourra certainement gagner les personnes qui sont encore loin du Seigneur. Il y a une lueur d'espoir dans ce passage. Car qui sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Et que sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme? J'avoue que c'est un ministère à plein temps. Ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Mais Dieu vous aidera. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les plus grandes batailles, on ne les gagne pas quand on est spectateur, mais quand on est acteur. Et si vous êtes dans ce cas, vraiment, priez. Demandez le soutien et priez. Et attendez-vous à ce que Dieu agisse. Parce qu'il y a une promesse pour vous dans ce passage. Il y a une grande promesse pour vous. Nous avons vu trois directives, hein. De Paul en ce matin, que Paul a donné en ce matin à des personnes qui avaient déjà été mariées, à des personnes qui sont mariées avec des chrétiens et à des personnes qui sont mariées avec des non-chrétiens. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été encouragés en ce matin. Que Dieu puisse-t-il nous aider à continuer nos progrès dans nos foyers. Et qu'il aide bien sûr, qu'il accorde sa grâce à tous ceux qui sont en train d'attendre une épouse. Dieu est votre refuge également. S'il ne vous a pas donné ce don du célibat, s'il ne vous a pas appelé, s'il ne vous a pas donné ce don précieux du célibat, c'est qu'il a certainement une femme pour vous. C'est qu'il a certainement un mari pour vous. Je terminerai par la prière. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu parles à nos cœurs encore ce matin. Et je veux te demander ton secours pour tous ceux qui sont seuls, premièrement, et qui sont là en train d'attendre une épouse, qui sont là en train d'attendre un époux. Vraiment, Père Céleste, donne-leur ce qu'il faut pour que, durant cette attente, ils puissent te servir dans la fidélité. Et vraiment, montre-leur que tu ne les oublies pas, que tu es là, que tu travailles. Donne-leur des clins d'œil, afin qu'ils ne s'épuisent pas. mais qu'ils voient véritablement qu'ils ne sont pas là en train d'attendre pour rien, Seigneur. Merci parce que tu le feras. Je veux également te demander ton secours pour nous qui sommes déjà mariés en Christ, de longue date ou tout comme moi, c'est tout frais. Je veux te demander, Seigneur, vraiment ton aide. Parce que tu sais que le mariage, il ne tient que par toi, il ne tient qu'en toi. Et nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Vraiment, nous te recommandons tous nos couples, Seigneur, et permets qu'ils puissent être des lumières dans ce monde qui est en train de se corrompre. Vraiment, viens à notre aide, Seigneur, et continue de te servir de nous dans nos couples respectifs pour que nous puissions aider nos conjoints à devenir des personnes meilleures. Et je veux également te prier pour toutes les personnes qui sont peut-être dans ce cas-ci, qui vivent avec des non-chrétiens. Seigneur, si c'est ce cas, s'il y a des gens dans ce cas-là aussi ce matin, eh bien, fais-leur du bien et montre-leur qu'elles ont le pouvoir de sauver leur couple et de sauver leur enfant par leur témoignage. Merci pour tout, Seigneur. Nous attendons à toi. Tu restes ce grand rocher sur lequel nous sommes. Et tu es notre protecteur. Agis.